Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter les résultats d'une recherche qu'on a menée avec Caroline Lejeune. Elle a fait sa thèse sur cette question-là. C'est un programme de recherche qui était inscrit dans le programme Concertation, Décision et Environnement, sur lequel l'objectif de ce programme était de réfléchir sur les politiques de concertation, notamment sur les questions environnementales. Donc nous, on a travaillé sur le cas des modalités d'organisation d'une concertation autour de la définition d'un projet d'écoquartier. Alors, il y avait plusieurs choses qui nous avaient intéressés dans l'idée de travailler sur ce quartier. La première chose, c'était sur le fait que c'était tous les acteurs qu'on avait identifiés partaient d'un même constat. Tous reconnaissaient qu'on était dans une situation d'urgence écologique. Et le terme d'urgence écologique, c'est important puisqu'il est mobilisé à la fois par les opérateurs du projet, hein, la SEM, la Société d'économie mixte. Il est mobilisé par les élus qui ont porté le projet, alors notamment les deux, trois élus responsables, dont la principale, Astrid Charlie, qui était une écologiste, avant chez Les Verts, puis bon, après elle a quitté Les Verts. Et puis, il était aussi mobilisé du côté des militants associatifs qui travaillaient autour d'une contre-proposition de formulation du projet d'écoquartier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la lutte définitionnelle pour dire que c'était qu'un écoquartier, donc il y avait un constat partagé dès le départ. Et on va voir que ça, c'est un élément important dans la construction de cette histoire. La deuxième chose qui nous avait sur laquelle on avait voulu travailler, c'était l'idée que la démarche de recherche elle-même pouvait être questionnée par la manière d'aborder la question de l'écoquartier. C'est-à-dire, soit on l'aborde avec une vision assez légitimante, accompagnatrice, hein, est-ce que vous faites ou pas du dispositif participatif, sans se poser la question de savoir quels sont les objectifs du dispositif participatif lui-même. Autrement dit, sur quoi on négocie? Est-ce que ce qui est important, c'était davantage de savoir si c'était conforme aux critères académiques d'une bonne concertation, ou est-ce qu'on est dans un registre où finalement on peut très bien élaborer une bonne concertation au détriment d'une réflexion sur le fond, sur quoi on discute, hein. On va prendre l'exemple caricatural sur le référendum sur Notre-Dame de l'Arme, c'est ça, on met un dispositif de concertation déconnecté profondément des enjeux écologiques de cette problématique. Alors, troisième élément important aussi, c'était de prendre en compte les caractères inédits des perturbations vécues sur le territoire. Alors, tout à l'heure, on parlait ce matin, et on en parlait encore à table, sur le caractère, effectivement, des contraintes du territoire vécues par les habitants. Bon, là, c'est un territoire qui était extrêmement intéressant, puisqu'il est le résultat d'une histoire industrielle que je présenterai très rapidement tout à l'heure, mais surtout que cette histoire industrielle avait contribué à rendre invisible la plupart des problématiques environnementales. C'est-à-dire que le lien entre le milieu, ce qu'on a évoqué ce matin, le milieu qui est constitué en partie à partir des critères écologiques, hein, et ça on voit très bien dans les travaux d'Augustin Berck, là ce milieu, il est désécologisé. Hein. Il n'y a pas d'écologie du territoire au sens, il n'y a pas de biodiversité, il y a très peu de... la seule trace de biodiversité, c'était un canal, et encore un canal artificiel, hein, bien évidemment, enfin, qui était redevenu, par une histoire de mobilisation, un espace de renaturation. C'est tout. Il n'y a pas donc de nature au sens tel que la tour les bosse. Il n'y a même pas d'hybridation, il n'y a pas de nature. Il n'y avait pas non plus, dans cette dimension d'écologie, ce caractère inédit des perturbations du territoire. Il n'y avait donc pas de visibilité des enjeux écologiques actuels. La question climatique ne se posait pas sur ce territoire. La question de la réintroduction de la biodiversité va être un petit peu abordée à travers les trains verts et bleus, et encore de manière assez résiduelle, etc. Donc ça, c'est la première chose. Une invisibilité, finalement, des enjeux écologiques. Une surdétermination, par contre, des enjeux sociaux. On est là sur un territoire qui a été marqué par la culture ouvrière, si vous voulez, qui a surdéterminé les oppositions entre les acteurs du territoire. Toujours dans ces perturbations, il y avait une réflexion sur les temporalités qui était extrêmement intéressante. La temporalité, c'est celle de la gestion de la crise, hein, passée industrielle, et puis la manière de se projeter dans un avenir qui est toujours un avenir de l'innovation technique, de la productivité industrielle, même si c'est une activité de production industrielle du type tertiaire, on reste dans cet imaginaire de l'innovation technique comme moteur de la cohésion sociale et comme moteur de l'intégration sociale. Toujours dans cette vision-là, il y avait aussi cette idée que finalement les enjeux internationaux sont présents à travers la compétitivité des territoires. On va le situer ce territoire tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ce territoire est à la frontière de la Belgique, et puis il est considéré comme une zone dynamique dans la conception plus globale de l'euro-région qui va du Kent en Angleterre jusqu'à les frontières du Luxembourg et de l'Allemagne. Bon. Donc on est sur un territoire, finalement, invisibilité des enjeux environnementaux et extrême présence d'une continuité des enjeux sociaux, des enjeux économiques, qui maintiennent cet imaginaire d'un développement du territoire comme facteur d'insertion des dépopulations. Quatrième dimension qui était aussi importante, c'était de voir comment cette politique estampillée éco-quartier, eh bien finalement, elle était adaptée à la fois aux contraintes sociales et à la fois aux contraintes environnementales. Hein, c'est cette idée que les éco-quartiers doivent répondre à la fois à la mixité sociale et aussi à un souci de promotion d'une vision apaisée, on va prendre un mot que certains militants aiment bien en ce moment, une vision apaisée avec le milieu. Okay. Donc vous voyez cet imaginaire du consensus qu'on a évoqué la dernière fois dans l'atelier sur l'acceptabilité sociale, hein, quelque chose qui va permettre dans la négociation d'apaiser les tensions et de finalement les dépasser. Alors, le cas d'étude, donc, c'est celui de la zone de l'Union, si ça marche. Voilà. Je vous le situe géographiquement parce qu'il est assez intéressant. Donc c'est à cheval sur trois communes éminemment dramatiquement frappées par une histoire industrielle forte depuis le début du 19e siècle, avec une série de catastrophes. Ce que même les acteurs locaux appellent des catastrophes, hein, pour traduire la désindustrialisation rapide de milieu des années 70, début des années 80. Toutes les usines ferment, les unes à la suite des autres. C'est des plans sociaux de 300, 500, 1000 personnes qui vont s'enchaîner. Donc c'est vraiment un traumatisme social et aucune perspective par rapport à ça. Donc c'est, vous voyez à cheval sur ces trois communes, Roubaix, Wattrelos, Tourcoing, que vous connaissez tous dans l'imaginaire collectif, notamment dans les films du Nord-Pas-de-Calais, dès qu'il y a la misère sociale, c'est Roubaix, Tourcoing, etc. C'est pas faux, hein. Si on avait le temps, je vous emmènerais visiter certains quartiers limitrophes de cette zone de l'Union. Et effectivement, ce sont des quartiers, c'est Zola, hein. C'est vraiment des gens en précarité sociale, en difficulté alimentaire, enfin bon... complètement immergés dans leur quartier, qui ne sortent pas, etc., etc. Plus le problème communautaire, ou l'enjeu communautaire, appelez-le comme vous voulez, qui renforce à la fois la stigmatisation territoriale, l'éloignement des autres espaces sociaux, et puis à la fois qui est un facteur de cohésion et malgré tout de survie territoriale. Alors c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisque ce projet figure parmi les grands projets urbains de la métropole, de la communauté urbaine de Lille, qui s'appelle maintenant... Lille Europe Métropole, hein, un peu d'envergure à tout ça, et qui à l'époque s'appelait la communauté urbaine de Lille, hein, tout simplement. Et donc c'était finalement la volonté de dynamiser les territoires. Alors on avait investi sur le sud de la métropole, après sur l'est, bon bref. Et puis c'était le tour de cette zone de Roubaix-Tourcoing. Bon, 80 hectares plein centre-ville, c'est effectivement une aubaine pour vous imaginer les aménageurs, etc., à condition de trouver des projets, j'y reviendrai. Alors, c'est un objectif qui va initier une confrontation, un rassemblement des ce qu'on appelle toujours les pôles de compétitivité. Il y a notamment un pôle image qui est extrêmement dynamique avec les images du numérique, les images de la promotion des films, etc. Il y a un pôle textile innovant aussi. Alors quand vous appelez ça un pôle textile innovant, c'est un bâtiment, hein, qui est isolé dans la zone de l'Union, qui effectivement fait ce qu'on appelle des tissus intelligents, par exemple pour les pompiers, pour résister au feu, pour s'adapter, etc. etc. Bref. Alors ça, c'était ce territoire-là. Alors ce territoire, il n'y a pas d'habitants dessus. C'est vraiment important, ça, par rapport à l'imaginaire qu'on se fait des mobilisations. Il y a eu 300 Roms, à un moment donné, qui ont habité sur le site, qui n'ont évidemment jamais été associés à quelles que soient les concertations, qui ont régulièrement été rechassés d'un côté, ils revenaient de l'autre côté, enfin, le jeu classique des territoires en déshérence. Il n'y a donc pas d'habitants, ça c'est vraiment important, hein. Donc il n'y a pas de soucis de réhabiliter ou pas un quartier, etc. Il y a un tout petit espace qui s'appelle l'îlot de Stevenson, qui lui a bien joué son jeu, sa carte de la négociation, qui a eu un aménagement adapté, qui a été une vitrine extrêmement importante, puisque Patrick Boucheron, c'est ça
Bouchain.
Bouchain, voilà, merci.
Il y a deux ans.
Ouais. Qui a parlé de cette rénovation exemplaire avec les habitants, etc.
Il a parlé de beaucoup de choses, mais il a beaucoup parlé comme d'habitude, quoi.
Il ne faut pas que les gens parlent trop.
Il est encore plus fort. Bon, certains que je ne nommerai pas.
Il a fait ça aussi avec les habitants du territoire et ça c'est assez mal passé. Enfin, bref. Donc peu importe, mais c'était pour vous dire que c'est devenu une vitrine des possibilités d'aménagement avec les concertations, etc. Bon, ça j'en parlerai pas de Lido Stephenson puisque c'est une concertation qui a été en marge et qui a été négociée différemment. Alors, toujours sur la présentation rapide de ce quartier, ça c'est l'histoire rapide, c'est la friche de l'histoire de ce territoire. Ce qui est important de rappeler, c'est une sorte de millefeuille de projets institutionnels qui n'ont jamais abouti. Alors plus ou moins en concertation, rarement en concertation, plus ou moins sur un objectif de reconstituer un maillage entre les quartiers limitrophes ou la communauté urbaine, etc., etc. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a une histoire importante qui est à la fois issue des secteurs de l'activité institutionnelle, les collectivités qui ont essayé de proposer des projets pour rénover ce territoire, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est des projets qui sont aussi initiés par les acteurs économiques locaux, hein, la Chambre de commerce et d'industrie, qui voyaient une opportunité aussi d'avoir des territoires. Ils ont fait des propositions soutenues par les collectivités, ça n'a pas plus marché. Il y a eu des contre-propositions militantes, mais pas vraiment sur le territoire lui-même, mais par effet de mimétisme, notamment cette fameuse mobilisation d'Anne Magard, qui, à mon avis, a drainé plus de littérature scientifique que, effectivement, sur l'histoire elle-même. C'est une espèce de Saint Graal pour tous les chercheurs écolos, gauchistes, qui ont envie de croire que ça marche à un moment donné. Alors que bon, on va le voir, si on a le temps, sur d'anciens militants de la Malgar qui sont reconvertis sur le projet du territoire, ils ne sont absolument pas du tout dans les mêmes logiques de concertation, de discussion, etc. Bon, peu importe. Ça, c'est simplement pour vous montrer qu'on est sur un territoire qui a une grosse histoire institutionnelle de projet. Et quand le projet, finalement, de l'écoquartier arrive, il permet d'agréger relativement facilement, de manière assez consensuelle, l'ensemble des acteurs du territoire. C'est quelque chose qui finalement, c'est ce que sur la question du développement durable, hein, c'est un élément de consensus facile à mobiliser puisque chacun va pouvoir y mettre son imaginaire et ses pratiques. Alors ce qu'on a essayé de faire nous, avec Caroline, c'était finalement sur, à la fois très classiquement, c'est travailler sur l'usage performatif de la notion d'éco-quartier, bon ça j'en parlais pas beaucoup. Ce qui était plutôt intéressant, c'est d'essayer de voir finalement de quel type d'environnement on parlait, de quel type de projet d'environnement on parlait, dès lors qu'on mobilisait cette question de l'éco-quartier. Et puis ensuite, c'était effectivement ce référentiel de la durabilité qui était mobilisé dans l'élaboration du projet. Comme le dit un militant écolo, il n'y a que les ruines qui sont réellement durables. J'aime bien cette expression parce qu'en fait, quand on se projette dans des temps relativement longs, c'est difficile de savoir quelle sera la viabilité de ce projet d'infrastructure. Alors évidemment, c'est comme dans tous les quartiers, on va dire, ben, on va les changer au fur et à mesure, on va les renouveler, etc. Sauf qu'il y a des intentions de co-gestion finalement des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux qui posent effectivement une série de questions sur la question de ce qu'on appelle la durabilité. Et puis le troisième niveau sur lequel je vais davantage insister là-dessus, ça sera la première partie de cette réflexion sur le résultat de notre étude sur les écoquartiers. C'est l'idée, finalement, comment on aborde ces questions de durabilité, sous-entendu, quand on mobilise la thématique de l'écoquartier. Alors, ça, c'est plus une dimension, si vous voulez, une espèce de projet qu'on poursuit depuis quelque temps, pour essayer de réfléchir sur les outils à notre disposition pour appréhender cette question de la durabilité. Alors, par rapport à ce qu'on a dit ce matin, s'il faut annoncer clairement la couleur, on n'est absolument pas, je ne vais pas parler au nom de Caroline, bien sûr, dans une posture dite constructiviste. C'est-à-dire que l'approche qu'on a construite dans ce travail de recherche, c'était de nous dire quels sont nous-mêmes nos propres référentiels de chercheurs pour aborder la question de la durabilité. Soit on considère que ce n'est pas notre problème, dans ce cas-là on est extérieur à la manière d'appréhender les problèmes, et on analyse finalement les discours approche classique qu'on mobilise assez facilement dans la sociologie politique. Soit au contraire, on va nous-mêmes procéder à une sorte d'analyse, d'auto-analyse, sur la manière dont on va construire nos propres outils d'analyse. Donc en gros, soit on se colle facilement dans la sociologie politique et on analyse les phénomènes de mobilisation et on produira de la donnée, ce qu'on a fait aussi dans certains textes, hein, ce qu'il faut bien vivre, soit on est dans l'idée que finalement ce que produit un écoquartier par le biais de la mobilisation, c'est aussi une forme de légitimation d'une certaine vision de ce qu'on appelle l'environnement. Et ça, on pouvait l'interroger. Donc, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, quels sont nos trois présupposés normatifs, puisque c'est comme ça qu'on nous a qualifiés, donc j'assume la dénomination. La première posture normative, c'était de travailler à partir d'un cadre théorique qui s'appelle la Green Political Theory, qui est un courant de pensée anglo-saxon, qui est pas un courant unifié, hein, loin de là, qui prend en considération l'environnement non pas comme un élément explicatif de l'évolution des politiques publiques, mais comme un élément de reconstitution de l'orientation des politiques publiques. Autrement dit, l'environnement n'est pas un élément anodin de la construction des politiques publiques. On pourrait substituer l'environnement à la mixité ou le genre, hein, avec ces personnes. Et puis, finalement, on arriverait à une évolution théorique qui serait à peu près similaire. La Green Political Theory considère qu'effectivement, l'environnement comme notion induit dans son contenu même des conséquences, puisque la notion a été évoquée ce matin à nombreuses reprises, et c'est que c'est une notion extrêmement importante, hein. J'utilise plutôt la vision de Robert Goodin, hein, l'approche conséquentialiste, c'est de gérer non pas simplement le principe lui-même, mais ce qu'il va produire dans ses conséquences. Donc après tout, la conséquence peut être positive, enfin, le droit de l'homme c'est positif, la conséquence des droits de l'homme on peut considérer que c'est positif, l'environnement c'est positif comme principe, renaturation, lien, etc. Mais la conséquence peut être contre-productive sur le plan social, puisque c'est un facteur aussi d'exclusion sur les aménités, etc. Donc cette première approche sur la grille politique théorie, c'est de dire ben, les concepts traditionnels de la science politique, citoyenneté, mobilisation, souveraineté, doivent être réinterrogés à l'aune de l'environnement. Donc ça veut dire, vous voyez, on sort de l'idée que l'environnement c'est une notion parmi d'autres, en considérant que l'environnement devient une notion centrale dans l'explication des phénomènes politiques. Alors, on s'appuie sur cette position-là. La deuxième chose, on est très influencé par l'approche écocentrée, qui met en avant la similitude des conditions entre l'individu et la matière. Okay. C'est-à-dire que les hommes sont à la fois dépendants de leur relation avec la matière et acteurs sur les conditions de maintien de cette matière. Alors c'est les ressources naturelles qu'on exploite, c'est la biodiversité qu'on favorise ou pas, etc. Mais qu'il existe un lien spécifique, un lien effectivement important, qui finalement ne permet plus de continuer à réfléchir sur le rapport politique à l'environnement d'une manière discontinue et séparée. On ne peut pas considérer nature et culture d'un côté, ça c'est le travail de Descola, qui n'est pas une approche écocentrique, on s'en fout, mais qui est l'idée qu'il va falloir renégocier la communauté de vie partagée. Okay ? Et donc il y a une continuité. La deuxième chose, par contre, c'est que ça permet aussi de concilier l'héritage de la conception individualiste du sujet humain, en considérant que le sujet humain doit se renouveler dans sa conception, hein, c'est la nouvelle modernité telle que l'appelait Latour. Par contre, cette nouvelle modernité, elle doit inclure la question des non-humains. Donc, on n'est plus seul, pour le dire rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'on renégocie la priorité de l'individu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche égalitariste. Hein, l'homme et les autres espèces sont dotés des mêmes droits. C'est plutôt une approche qu'on pourrait qualifier de biocentrique, qui n'est pas celle que nous, on a choisie, puisque effectivement, elle est beaucoup plus compliquée à concilier avec l'organisation de notre modèle politique. Troisième présupposé normatif, qui est celle de l'option d'une durabilité forte. Alors, celle-là est intéressante, puisque finalement, on est sur un projet d'écoquartier qui favorise le développement dit durable. Donc la question du durable, ça suppose effectivement le maintien, la viabilité du maintien de la relation au temps et des individus entre eux, bien évidemment, mais aussi des individus avec leur milieu vivant. C'est le B.A.B.A. Du rapport Brundtland. Simplement, Depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, il y a quand même une distinction qui a été opérée entre la durabilité forte et la durabilité faible. La durabilité faible, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, puisque finalement, c'est plutôt le projet qui va être promu par cette politique de concertation et de participation. La durabilité forte, c'est l'économie écologique qui a permis l'essor de cette réflexion-là, à la fin des années 80, en considérant un élément important qui est la non-substitution du capital vivant par rapport au capital technique ou par rapport au capital économique. C'est-à-dire que, classiquement, l'idée, c'est que la biodiversité peut être un objet de négociation, voilà, mais que l'irréversibilité d'une espèce fait l'objet d'une non-négociation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas substituer la disparition des baleines avec un capital économique qui nous ferait apparaître des baleines en 3D, etc., qui les rendrait plus proches. On a vu ça dans un texte. Hein. Plutôt, les baleines vont disparaître. On créera une nouvelle sensibilité avec la baleine grâce à la dimension 3D. Ça va être assez rigolo, ça, comme truc. Hein. Bref, donc c'est poser les questions non seulement de l'effectivité de cette relation au temps. Il ne s'agit pas de dire qu'on est durable, c'est est-ce que c'est réellement durable compte tenu des contraintes écologiques sur un territoire. La deuxième chose, c'est de considérer que cette durabilité doit poser la question de l'équité intergénérationnelle, j'y reviendrai pas. Là aussi, c'est une tarte à la crème de la littérature consacrée au développement durable. Moi, je m'amuse assez avec ça avec les étudiants, je leur dis, ben, voilà, vous êtes la première génération future que je connais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des cours à la fin des années 90 sur les questions de développement durable, je parlais d'une génération future.
C'était vous.
Et maintenant, vous êtes cette génération future. On a le sentiment qu'on est beaucoup progressé depuis. Enfin, ça, c'est mon côté pessimiste. Okay. Alors, troisième élément aussi de cette dimension de la durabilité forte, elle suppose de mettre en évidence constamment la question des limites, des effets de basculement, des tipping points, ce que vous voulez, autrement dit, de prendre au sérieux l'hypothèse de l'effondrement, contrairement à ce que tu as évoqué ce matin, c'est de prendre l'idée que des usages peuvent produire du non-renouvelable définitif. Et cette question de l'irréversibilité, elle est extrêmement intéressante à mobiliser sur un point de vue théorique, il y a beaucoup de littérature là-dessus. La traduction de l'irréversibilité dans le domaine du politique, elle est extrêmement compliquée, parce que l'imaginaire du politique, c'est justement la continuité de la décision, hein, du temps, du maintien, etc. Et que l'irréversibilité, c'est de considérer qu'il peut y avoir une hypothèse où il n'y a pas de demain possible. Alors ça, c'est tout un travail sur lequel je m'appuie sur les travaux du philosophe Günther Anders, Saint Günther Anders, qui montre bien que l'hypothèse de la bombe rend possible l'impossibilité de choix futurs. Une fois qu'on aura utilisé la bombe, vous pourrez imaginer tous les politiques que vous voulez, ça sera terminé par rapport à ça. Alors, cette approche de la durabilité forte, ce qui était intéressant de voir, c'est comment elle s'applique sur un territoire. Ce n'était pas un cas théorique, et là, c'est les travaux qu'on mène depuis quelques années avec le réseau développement durable et territoire, hein, sur l'ancrage territorial d'une conception du développement durable. J'insiste pas là-dessus, mais de dire, finalement, la reconnaissance des limites matérielles par les individus, et vous vous souvenez du présupposé de départ, hein, c'est que tous les acteurs locaux sont d'accord sur l'idée de la crise. Ils sont d'accord sur l'idée d'urgence. Mais que la territorialisation de ces contraintes, eh bien, va faire l'objet de négociations et surtout de mise à distance de la part des opérateurs. Et puis là, on va retrouver la stratégie politique, des asymétries de position des individus, ce que tu rappelais ce matin. Eh bien, l'asymétrie des positions des individus fait qu'en situation de concertation, certains pèsent plus que d'autres. C'est une espèce de banalité en sciences politiques, mais c'est une banalité qui est masquée justement par les dispositifs de concertation ou d'acceptabilité sociale le plus souvent. Alors, nous, notre objectif, c'était d'apprécier effectivement cette durabilité forte. Alors, évidemment, hein, vous voyez le tropisme, hein, on part d'une position forte, hein, sur la durabilité, et puis on voit comment les acteurs se saisissent de ces débats localement, etc. Encore une fois, si les acteurs nous avaient dit dès le départ qu'il n'y a pas d'urgence écologique, à part quelques crypto-écolos locaux, on aurait dit, bon, effectivement, ce n'est pas un objectif de durabilité. Là, s'ils disent, oui, l'urgence écologique, le changement climatique, la biodiversité, les ressources non renouvelables, l'artificialisation des sols, qui est revenue très fréquemment dans les débats locaux, les pollutions locales, mais bon, ça c'est réversible, donc c'est pas forcément très grave, etc. Enfin, localement c'est très grave, hein, pour les habitants, mais c'est pas très grave sur le temps long, etc., etc. Donc ce problème de reconversion urbaine, eh bien, comment il prenait en compte la question des irréversibilités. Donc ça, c'est le cadre théorique par rapport à ça. Alors, quelques éléments de résultats. Alors, le dispositif participatif, finalement, fonctionne cas un cas bien. C'est assez classique. Hein, on va retrouver toutes les figures que tu as rappelées aussi ce matin. C'est pareil sur les politiques de controverse. Hein, on voit à peu près toutes les mêmes phases, avec des phases de concernement, des phases d'exit, des phases de rabibochage, etc., etc. Alors, sauf ce qui est très intéressant par rapport à ce petit schéma, c'est que ça vous explique qu'à partir du moment où les dispositifs de dialogue sont institués, ça oblige à des recompositions culturelles de la part des acteurs. Par exemple, la SEM va embaucher deux personnes qui vont être spécialement dédiées à ça, parce qu'ils ne savaient pas faire. Donc ils vont chercher un animateur social qui connaît très bien le territoire. Et puis, ils sont contraints aussi par les dispositifs légaux. Dès que vous êtes estampillé éco-quartier, il faut effectivement associer les habitants, entre guillemets. Encore une fois, il n'y a pas d'habitants sur le site. À ces discussions-là. La deuxième chose intéressante aussi, c'est que ces politiques de concertation, finalement, elles vont mettre en place des conciliations d'objectifs. On va essayer de, finalement, faire aménager, faire se rencontrer et dialoguer, à la fois les acteurs qui vont promouvoir le projet, la SEM, qui pousse, elle est contrainte par l'opérateur, et puis par le commanditaire politique, à organiser le bâti. OK ? Et puis, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le collectif de l'Union, qui est un collectif d'associations, qui va regrouper... Alors, dire les opposants au projet, ce serait un peu compliqué. Ce sont les acteurs qui vont faire une contre-proposition au projet institutionnel, avec un élément extrêmement intéressant. Vous voyez juste là, sur le contre-proposition, la l'Union se fera-t-il sans les quartiers, etc. Vous avez eu, par exemple, une contre-proposition, je pense que je l'ai mis là, voilà, où l'expertise technique d'un cabinet Cochrane, c'est un urbaniste architecte, qui a fait une synthèse entre les contre-propositions des acteurs du territoire et les contraintes de la SEM. Vous voyez, c'est pas une contre-proposition genre, à nous, ce qu'on aimerait, c'est ça, vous voyez, les concertations avec les post-it, ah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, puis etc. Puis après, on va voir les élus en leur disant, voilà ce qu'il faut pour les habitants. C'est complètement décontextualisé des contraintes économiques, etc. Ou des contraintes légales, puisqu'il y a des engagements, il y a une contractualisation, il y a des chantiers qui ont ouvert, etc. Eh bien, la Coquerel a repris l'expertise des habitants, enfin, des membres de l'association, en faisant une contre-expertise technique, hein, qui rentre bien dans les clous, mais qui répond aux ambitions qu'on va qualifier d'utopiques des habitants, enfin des gens concernés par le territoire, ou en tout cas qui sont déclarés concernés. Alors, la première chose, classiquement, c'est une difficile conciliation des objectifs. Bon, les acteurs participent plus ou moins, on va retrouver évidemment des effets d'évitement, hein. Alors là, ce qui est intéressant, ce n'est pas les plus précaires qui participent pas, puisqu'ils sont tous précaires autour de ce territoire. C'est plutôt les associations classiquement représentatives des acteurs du territoire. Et notamment, puisque c'est des milieux très ouvriers, c'est l'absence des syndicats dans ces politiques de négociation. Et après tout, il n'y a eu plus d'entreprises, ils se retirent du territoire, ils ne maintiennent pas les choses. Donc c'est plutôt par le biais des associations d'anciens salariés du site que va se faire les principales mobilisations. Ça, c'est le premier réseau d'acteurs. Le deuxième réseau d'acteurs, c'est des écolos ou anciens écolos ou anciens gauchistes reconvertis à l'écologie, notamment des anciens d'Amalgame. On va retrouver cette filiation. Et ce noyau des anciens activistes écolos gauchistes, eux ont un savoir-faire dans les pratiques de négociation qu'ils vont réinvestir, mais en recomposant aussi leurs propres pratiques. OK ? Passer d'un ancien maoïste, Joël Campagne, par exemple, militant maoïste radical, en opposition violente avec les élus dans les années 70, à un écolo non violent dans les années 90-2000. Bon, il y a une trajectoire qui est assez intéressante, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a eu un noyau, effectivement, de gens qui ont finalement fait ce travail d'acculturation des ouvriers, des anciens ouvriers ou des chômeurs, beaucoup de chômeurs, et de leurs familles, pour leur montrer en quoi, finalement, il y avait une continuité de leur situation sociale par rapport à la question écologique. Et ça, c'est probablement un des résultats les plus intéressants de la thèse de Caroline Lejeune, c'est de bien montrer tout ce travail d'appropriation des thématiques environnementales qui, au départ, était aux antipodes des revendications et des attentes des mouvements ouvriers, on va les qualifier comme ça. D'accord ? Et donc, il y a eu tout un travail de sensibilisation qui est extrêmement intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a contribué, si vous voulez, à faire des contre-propositions, notamment sur la question de la durabilité, qui sont des contre-propositions qui vont au-delà de simplement du respect du patrimoine de la mémoire ouvrière, qui était au départ leur première revendication. Il fallait garder un certain nombre de sites pour montrer la lutte, etc. Et puis progressivement, par exemple, ils ont fait une exposition qui était extrêmement intéressante, qui s'appelait « La route de la laine ». Et donc, c'était de montrer comment eux avaient travaillé pendant des années avec un produit, la laine, qui venait d'Inde, sans jamais se l'être posé la question de savoir d'où il venait, comment il était venu et dans quelles conditions il avait été produit. Et en faisant ce travail sur la laine, sa migration, sa production, sa migration, ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait des situations sociales similaires dans les deux pays, dans l'exploitation des hommes, mais aussi des conséquences écologiques extrêmement dramatiques, au nord comme au sud, dans l'exploitation de la laine, le traitement de la laine qui est extrêmement nocif avec tous les produits qu'on utilise, etc. Alors, il y a eu cette acculturation réciproque, du côté des contestataires qui ont intériorisé la culture des modèles de décision, mais ça c'est un résultat classique de la participation, on oblige les uns et les autres à négocier avec l'autre. Acculturation quand même réciproque minime, c'est-à-dire qu'on discute sur ce qui peut être négocié ensemble, alors que les divergences programmatiques apparaissent de plus en plus au fur et à mesure du programme d'élaboration du dispositif. Simplement, ce qui est extrêmement intéressant, je ne rentre pas dans le détail de la minutie, c'est que ce dispositif participatif a été extrêmement positif pour les promoteurs du projet. Je donne un exemple. En 2011, l'écoquartier va être labellisé au niveau national comme écoquartier exemplaire. Le ministère de l'Environnement cherche des référentiels pour construire le label écoquartier et va utiliser l'exemple de Roubaix pour promouvoir un certain nombre d'éléments significatifs. Or, on a bien étudié dans le minutieux, on a fait un papier là-dessus, la manière dont on s'était produit. Tout ce qui a été mis en évidence par le niveau national comme étant exemplaire, c'est toutes les contre-propositions que, in fine, la SEM a accepté d'intégrer dans le projet qu'elle a présenté au niveau national pour essayer de faire un petit peu plus original que les camarades qui proposaient d'autres projets. Donc, on voit bien que ces éléments de distinction qui marquaient la différence significative de perception de durabilité ont été réacclimatés dans le projet institutionnel sans finalement aboutir à une reformulation de l'intention du projet institutionnel. Bon, ça, dans des dispositifs participatifs, on voit ça à l'appel, c'était pas très original, sauf qu'on voyait bien, encore une fois, cette mise à distance de la question environnementale. Alors, durabilité faible valorisée. Donc, on a bien cette substitution du capital naturel par le capital technique et financier. On va le voir dans la manière dont les dispositifs, par exemple, de construction d'habitat se construisent. Mais là, on a un expert des écoquartiers et de l'habitat, il pourra expliquer ça beaucoup mieux que moi. Autrement dit, on internalise, si vous voulez, dans la construction de l'habitat, l'efficacité énergétique. Les contre-opposants au projet parlaient davantage de sobriété énergétique. La notion de sobriété énergétique existe. On reste sur l'efficacité énergétique qui parle à l'imaginaire des constructeurs, qui est dans leur savoir-faire technique. Il y a des expertises, il y a des métiers. Bon, on ne va pas commencer à générer une notion comme la sobriété énergétique qui est plus compliquée à intégrer dans un dispositif institutionnel. Substitution, par exemple, aussi sur la question énergétique, c'est l'idée d'internaliser les mobilités. Les écoquartiers vous mettent en évidence l'idée d'une mobilité souple, douce, dans le quartier. Certes, c'est vrai. Sauf que pour accéder à ce quartier, ici, et toutes les activités sociales, culturelles, etc., obligent à une mobilité avec la voiture, sauf les transports en commun. Simplement, toutes les études qui ont été faites auprès des entreprises qui voulaient s'implanter dans le quartier, aucune ne voulait laisser ses salariés prendre le métro, parce que c'est un quartier, comment dire, animé le soir, et qu'effectivement, il y avait un risque. Donc, du coup, on facilitait là aussi l'accès au silo, au parking silo, pour que les gens continuent à utiliser leur voiture. Donc, on voit bien qu'il y a une internalisation de cette question sur un périmètre réduit, mais une externalisation des conséquences de l'activité économique de ce quartier. Durabilité faible aussi, substitution, c'est sur la biodiversité. À un moment donné, ils se sont fait un peu taper sur les doigts, les projets, parce qu'ils avaient oublié les trams vertes et bleues. qui sont normalement obligatoires sur tous ces types de projets, etc. Et donc, du coup, bon, ils ont planté une allée d'arbres hein, en disant bah, les oiseaux, ils vont passer d'un arbre à l'autre. C'est une vision de la biodiversité. C'était dans une réunion.
À tout bout de temps.
Voilà, on l'a expliqué que la biodiversité était un petit peu plus compliquée et que ce n'était pas forcément une dimension esthétique non plus, etc., qu'il fallait laisser la friche. Autre exemple, c'est par exemple la question alimentaire. On est dans des populations qui sont extrêmement précarisées au niveau de carence alimentaire pour les enfants. Enfin, bon, voilà. La contre-proposition, par exemple, ici, que vous voyez, je ne sais pas si c'est ça marche. Voilà. C'était le fait de développer des jardins, non pas partagés mais des jardins alimentaires, c'est-à-dire notamment pour les populations qui n'habitent pas sur le territoire, mais qui vont pouvoir venir faire des compléments alimentaires, parce qu'on ne vit pas avec un jardin, surtout dans la région de Pas-de-Calais, en hiver. Et donc, c'est des compléments alimentaires. Voire mieux, c'était la proposition de faire une ferme sur les 80 hectares. Évidemment, après réhabilitation des sols, transformation des pollutions, etc. Bon, on aurait dû filmer la tête du maire de Roubaix quand les militants lui ont fait cette proposition de faire de cette friche industrielle un immense jardin agricole pour tous les gens précaires des alentours. Bon, ça rentrait pas dans son imaginaire, c'était même pas entendable pour lui, etc. 80 hectares, c'était peut-être un peu excessif, hein, 60 aurait suffi avec une forêt pour le piège carbone, c'est ce qu'ils avaient proposé aussi hein, comme compensation, etc. Bref. Donc, cette institutionnalisation des dispositifs participatifs, on voit bien qu'elle produit finalement des objectifs relativement techniques du projet, mais qui sont ceux qu'on va rencontrer classiquement dans tous les projets d'éco-quartier, appropriation, recyclage, des options les plus radicales des militants associatifs, montée en expertise partagée, enfin bon, bref, tout ça, c'est classique. Ce qui est intéressant, c'est par contre ce travail de dépolitisation finalement de cette question de l'urgence. Dans le dispositif, au fur et à mesure de la manière de négocier, on a vu comment la question de l'urgence écologique était de plus en plus marginalisée dans les thématiques mobilisées, dans l'expertise mobilisée, par exemple sur la question de la réduction de l'empreinte carbone du quartier. Finalement, elle était prise en considération, mais par le biais de l'idée qu'il va y avoir le développement de l'hydrogène, c'est apparu dans la discussion, mais ne vous posez pas de problème, on va trouver une solution technique dans quelques temps, donc il n'y a pas lieu de se poser la question des émissions de gaz à effet de serre, etc. Sur la question de la biodiversité, c'était l'idée que finalement, elle allait se régénérer, comme nous avait dit un responsable de la SEM, elle va se régénérer toute seule, puisque la nature finit toujours par triompher. C'est sûr qu'avec des dispositifs de négociation comme ça, c'est en balai, voilà. Ensuite, c'était sur l'idée que le quartier va générer de la richesse, et la richesse va générer de l'activité économique, et l'activité économique va générer une réduction de la pauvreté territoriale, etc. Enfin bref, il n'y avait donc plus ni urgence écologique sur le territoire, puisque nous avions pris en considération les enjeux et les conséquences des enjeux, et il n'y avait donc plus non plus aussi l'urgence sociale, puisque finalement, vous savez, par l'effet du ruissellement classique, cher à nos amis économistes, eh bien la richesse du quartier va irriguer et transformer... va participer à la transformation du territoire. La taxe professionnelle, la taxe sur les entreprises, va pouvoir donner du budget à la communauté urbaine et les entreprises qui vont... Bon, enfin, un cycle infini, etc. Plus l'idée de l'efficacité technique, hein, thermique, mobilité, etc., qui va résoudre un certain nombre de situations. Autrement dit, on voit bien, de l'autre côté, par contre, le collectif associatif va lui radicaliser ses propositions. C'est la conclusion. Le maintien de ce qu'on a appelé, c'est Caroline Lejeune qui a trouvé le terme, je trouve ça, c'est la réserve utopique. Autrement dit, le collectif, lui, de l'Union, plus il a participé au dispositif participatif, il est certes monté en expertise sur ces questions environnementales, mais surtout, les militants se sont radicalisés sur la question des conséquences territoriales des contraintes écologiques. La SEM a intériorisé l'idée qu'effectivement ça allait être difficile à gérer, mais finalement ils sont dans une logique de l'ingénierie écologique classique, hein, solution technique, imaginaire technique, bon voilà, ça va se réformer, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, les militants, et c'était assez intéressant de voir, notamment des militants issus des minorités ethniques de la région Nord-Pas-de-Calais, qui se disaient eux-mêmes très éloignés des questions écologiques, et qui finalement ont de plus en plus créer des connexions entre les situations sociales d'inégalité et les injustices sociales et les injustices écologiques. Et ça les a amenés, bien évidemment, avec un travail d'accompagnement de militants écolos, etc., et le travail de Caroline Lejeune qui intervenait en tant qu'experte dans le dispositif, et bien ça les a amenés à approfondir finalement une forme de contre-proposition utopique radicale. Deux conséquences. Sur le plan du dispositif institutionnel, c'est leur retrait maintenant de tous les dispositifs locaux de concertation, de participation, de délibération, tout ce que vous voulez. En gros, ça n'a servi à rien. Et ensuite, ce que vous proposez ne va faire qu'aggraver la situation du territoire sur le plan écologique. Autrement dit, ça sera peut-être viable pour quelques individus qui ont économiquement les moyens, donc c'est le maintien des inégalités sociales, mais ça sera contre-productif sur le temps long, puisque vous allez continuer le maintien de l'énergie des smart grids, etc., etc., qui est contre-productif sur le plan des ressources fossiles non renouvelables et des gaz à effet de serre, et donc du changement climatique. Autrement dit, maintenant, il s'intitule même Roubaix en transition, influencé par les mouvements des villes en transition de Rob Hopkins, et par conséquent, ils ont radicalisé leur contre-proposition en sortant des dispositifs, en disant maintenant on va investir l'espace culturel, l'espace social, notamment vis-à-vis des minorités ethniques de la région, de cette province. Alors, conclusion, donc maintenir les réserves utopiques, je vous laisse prendre la citation. C'est un militant issu de la minorité, comme on dit. Donc, encore une fois, c'est des militants qui ont fait un énorme travail d'incorporation de ces notions-là. Et c'est toujours intéressant dans le travail de thèse de Caroline Lejeune de voir comment ils ont réussi à construire des liens, finalement, avec les briques intellectuelles, les briques militantes, les briques de connaissances qu'ils ont construites au fur et à mesure, de voir comment, à un moment donné, cette relation s'est construite. Finalement, trois éléments, parce que les limites participatives, bon, c'est toujours pareil. L'éco-quartier va finalement produire un quartier qui sera plus intéressant sur la question de du poids, notamment sur la question énergétique. Pour le reste, il ne résout rien sur la question de la durabilité des autres contraintes écologiques. La biodiversité, il y a une rupture de continuité, par exemple, des territoires. Il y a une artificialisation des sols qui va se maintenir. Il n'y a pas de piégeage carbone effectif envisagé par rapport à ça, etc. Enfin, des petits indicateurs, finalement, de voir ce que c'est que la durabilité forte. La deuxième chose, c'est que, finalement, par rapport à la thématique du risque d'aujourd'hui, j'essaie quand même de me rattacher à la séance, sur la question du risque, on voit bien comment le risque, il est maintenu dans son invisibilité. Finalement, il y a une substitution de la réponse technique qui, finalement, donne le sentiment d'un contrôle. Et ça ne change rien, ça ne fait que différer, là aussi je réutilise le terme de Gunther Anders, face à un problème, la solution c'est souvent de prendre en place un discours, des dispositifs qui vont non pas contrôler le dispositif, mais qui vont gérer le temps de la catastrophe, on va le différer, on va simplement accentuer le temps qui nous reste entre le moment où on a constaté le dysfonctionnement et le moment où ça va vraiment devenir ingérable sur les conséquences. Troisième élément, on voit bien comment finalement les contraintes environnementales, et là je retrouve tout à fait ce que dit Ulrich Beck, la question de l'individualisation du risque et le fait que les individus sont censés gérer ce risque à la hauteur de leur comportement individuel, ce qui est vraiment strictement à la fois dans un objectif néolibéral et puis à la fois dans une culture de la décision publique qui est basée sur l'expertise de l'ingénierie technique et puis cet imaginaire de l'innovation technique. Alors, pour conclure, vraiment le dernier mot là-dessus, il y avait eu les assises de la transformation écologique et sociale de la région Nord-Pas-de-Calais, je ne sais pas si tu y avais participé, et sur deux jours, ce qui avait été organisé par Jean-François Caron. Et pendant ces deux jours-là, il y a eu à la fois Rob Hopkins qui est venu présenter le choix de la transition, une adaptation aux irréversibilités, et puis maintenant, pas demain, maintenant, tout de suite, et puis avec les conséquences que ça peut avoir sur l'organisation du modèle social. Et puis la deuxième voie, c'est celle de Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle, etc. Avant quelle est la voie qui a été choisie par les instances régionales, je vous laisse deviner, on peut faire un vote, mais je pense que vous avez compris dans quelle position on s'est mis. Voilà, merci.